VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité hors d'Afrique. La Chine a exhorté aujourd'hui les États-Unis et la Corée du Nord au courage politique après l'annonce surprise d'un prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un au sujet du programme nucléaire de Pyongyang. Nous espérons que toutes les parties feront preuve de courage politique afin de prendre les bonnes décisions, a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang. Donald Trump a donné son accord hier au sommet qui devrait avoir lieu d'ici au mois de mai. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Dans une brève allocution à la Maison-Blanche, Chang Yu-yong, conseiller sud-coréen à la sécurité nationale, a annoncé que M. Trump avait accepté l'invitation pour ce sommet historique. Le leader nord-coréen a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible, a-t-il dit. Le président Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici fin mai, a-t-il ajouté. M. Chang a par ailleurs précisé que Kim Jong-un s'était engagé à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et a promis de s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou de missile pendant d'éventuelles négociations. La Maison-Blanche a confirmé que le président américain a accepté la proposition du dirigeant nord-coréen. Dans un tweet, Donald Trump a salué de grands progrès sur le dossier nord-coréen, insistant sur le fait que l'homme fort de Pyongyang avait parlé de dénucléarisation, pas seulement d'un gel des activités nucléaires. Les sanctions doivent rester en place jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, a-t-il souligné. Le lieu et la date d'une telle rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant de l'unique dynastie communiste qu'est la Corée du Nord n'ont pas été précisées.
Afrique maintenant, Zimbabwe, Robert Mugabe aurait-il l'intention de revenir en politique ? L'ex-président zimbabwéen vient en effet de déclencher un vent de panique dans le parti qu'il a dirigé pendant des décennies en posant aux côtés d'un ancien général candidat d'opposition à la présidentielle de cette année. Ambrose Mutinhiri, qui a démissionné de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, a annoncé sa candidature à la présidentielle prévue d'ici août. La photo des deux hommes, placée en haut du communiqué de presse, a fait l'effet d'une bombe au sein de la ZANU-PF que Robert Mugabe dirigeait encore jusqu'à la mi-novembre 2017. En Centrafrique, les Antibalaka et le groupe 3R, deux factions armées ayant signé un pacte de non-agression le 15 décembre dernier, se concertent mensuellement pour consolider cet accord. Mais des défis subsistent. Patrick Kilchanman, coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs de l'organisation Dialogue humanitaire qui a facilité l'accord, explique.
Depuis que l'accord a été signé, toutes les parties que nous avons rencontrées sur le terrain nous disent qu'effectivement, la violence a nettement diminué et que les deux groupes ne s'affrontent plus. Donc ça a calmé la situation et ça permet à la population civile de revenir, qui était déplacée. Donc le retour se fait timidement, mais il est en train d'arriver. Maintenant, plusieurs défis restent à surmonter. En particulier, ce que demandent les deux groupes armés, qui chacun disent qu'ils se sont armés en fait pour protéger leur population, c'est un redéploiement des forces armées centrafricaines. Il s'agit à l'État de réinvestir toute cette zone. Et dès que ce sera fait, les deux groupes armés sont prêts à déposer les armes. Et maintenant, il faut délimiter sur une carte quelle est la zone qui, théoriquement, une zone tampon entre les deux groupes pour ensuite progressivement amener l'État. Donc les choses se font petit à petit.
Patrick Kilchanman, coordonnateur des actions en Afrique centrale et dans les Grands Lacs auprès de l'organisation Dialogue humanitaire. En Guinée, les célébrations de la Journée internationale de la femme ont été mouvementées jeudi. Le président Alpha Condé a été hué par des centaines de femmes. Claire Morin-Gibault.
Des cris de colère ont fusé hier sur l'esplanade du Palais du Peuple, le Parlement guinéen. Devant le chef de l'État, des centaines de femmes ont scandé « Nos enfants à l'école » ou encore « Ne tuez pas nos enfants en les rendant ignorants ». Alpha Condé, opposant historique arrivé au pouvoir en 2010, avait choisi la journée du 8 mars pour mettre en exergue les progrès réalisés par les femmes et plaider contre toute discrimination selon les termes du communiqué de la présidence guinéenne. La Guinée fait face depuis un mois à de nombreuses manifestations au cours desquelles une douzaine de personnes ont été tuées. La grève des enseignants fait craindre une année blanche à de nombreux parents. Alpha Condé a promis de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel et de mettre des ministres qui sont à l'écoute de la population et qui s'occupent de leur programme. Ces manifestations sont liées aux élections locales du 4 février, dont les résultats sont contestés par le principal parti de l'opposition, l'UFDG, battu par le parti du président selon les chiffres officiels.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Maurice, le gouvernement a mis en marche le processus de destitution de la présidente Amina Gourib Fakim. Elle est au centre d'un scandale financier qui défraie la chronique dans le pays depuis février. Jacques Aristide.
Réunis en Conseil des ministres hier, les membres du gouvernement mauricien sont tombés d'accord que la chef de l'État devra quitter son poste après son refus de démissionner tel qu'exigé par le Premier ministre Pravin Jugnauth. Une motion pour la destitution d'Amina Gourib Fakim sera débattue à l'Assemblée nationale la semaine prochaine après les festivités du 50e anniversaire de l'indépendance le 12 mars. L'opposition parlementaire a été la première à réclamer le départ de la présidente accusé d'avoir dépensé plusieurs centaines de milliers de roupies pour des achats personnels sur une carte de crédit offerte par la fondation Planet Earth Institute d'Alvaro Sobrino, homme d'affaires angolais hautement controversé, ce qui est en violation de la loi. Mais la chef de l'État a déclaré aux médias locaux n'avoir commis aucune faute. Elle affirme avoir remboursé les achats en question en intégralité avec son argent personnel. Scientifique de renom, première femme présidente de Maurice, Amina Gourib Fakim, était absente hier lors des célébrations officielles marquant la Journée mondiale de la femme.
Tournée africaine du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. M. Tillerson a rencontré hier à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki. Les deux hommes ont discuté notamment de contre-terrorisme et de sécurité au siège de l'Union africaine. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide a joint notre correspondant sur place, Getachew Tedla.
Il est vrai que dans la sous-région de l'Afrique de l'Est, notamment dans la Corne où sévit des querelles d'intestines, des conflits souvent à caractère ethnique ou tribal, et surtout le terrorisme conduit par Al-Shabaab, une aile de celle qui se réclame État islamique, font que cette région est de nature de la marmite qui boue. En particulier le cas de la Somalie, où la mission africaine de maintien de la paix, la MISOM, a du mal à accomplir sa mission comme il se doit, souvent par manque de fonds. Et pour la bonne conduite appuyée par la contribution des partenaires généralement occidentaux. C'est cet aspect-là qui a été revu par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson au cours de ses entretiens avec Mahamat Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Les deux interlocuteurs ont convenu de l'adoption d'une stratégie de lutte anti-terrorisme précédemment étudiée par les experts. Mais quant à sa nature, cela n'a pas été divulgué. Assurer donc la sécurité dans la sous-région a été le clou saillant de cette rencontre.
Le patron de la diplomatie américaine est également revenu sur la Chine. Qu'a-t-il dit exactement ?
À des questions posées par des journalistes au secrétaire d'État relatives à l'investissement chinois en Afrique, sous forme de conseil, il a préconisé que le continent soit attentif et bien étudier les conditions de prêt, lesquelles, à long terme, ne feront que subjuguer les États dans l'impossibilité de rembourser les dettes. Une sorte de mise en garde. Les Africains devront bien étudier la nature des projets de développement.
Rex Tillerson en a également profité pour parler de la Corée du Nord, n'est-ce pas ?
Oui, cette question a été aussi évoquée, oui. Eu égard les relations de négociation des deux Corées, il a souligné que la Corée du Sud tient toujours au courant les États-Unis du processus de développement et travaille de tandem avec celle-ci. Bon, il n'a pas beaucoup insisté à développer beaucoup plus que cela.
Quel est son programme ce vendredi ?
Le secrétaire d'État, dans sa tournée marathon, on peut dire, se rendra après l'Éthiopie, entre autres, à Djibouti et au Kenya, à un emploi du temps révélé ici à Addis Abeba.
Getachew Tedla, le correspondant de VOA Afrique, à Addis Abeba, en Éthiopie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.org. voa.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.